l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Yves Cochet, bonjour.
Bonjour.
Alors on l'a vu, votre parcours est long, vous êtes allé du monde associatif au politique, vous avez été vraiment engagé dès votre plus jeune âge contre le nucléaire, contre tout un tas de choses et pour une société durable. Vous avez très tôt interpellé la société sur le besoin de décroissance, où en effet, quoi qu'on veuille dire, c'est quand même la seule issue si on veut avoir un avenir écologique normal, durable, vivable, pour une planète vivable pour les hommes. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes retiré de la politique en 2014 et que vous auriez pu couler une retraite tout à fait paisible. Mais non, vous continuez dans les engagements de manière bénévole, c'est vraiment tout à votre honneur. Et vous avez cofondé l'Institut Momentum, qui est un groupe de réflexion au sujet de l'imminence de l'effondrement de la civilisation industrielle et des moyens à mettre en œuvre pour tenter de réduire son ampleur. Alors Yves Cochet, je vais vous demander, puisqu'on est quand même là aussi pour faire de la pédagogie, pourquoi pensez-vous que l'effondrement de notre civilisation est inéluctable et est-ce que vous êtes sûr de son origine ?
Alors oui, je pense en effet que la civilisation thermo-industrielle va bientôt se terminer, hélas, je le crains, par des dégâts bien sûr environnementaux, politiques, financiers et autres, mais aussi des dégâts humains. Bon, on pourra en parler, mais il faut en parler, disons, d'une voix tremblante, parce qu'on n'est sûr de rien, et puis c'est assez difficile à exprimer. Mais j'en suis sûr, parce qu'il y a d'une part tous les rapports les plus objectifs et les plus scientifiques de nos savants depuis maintenant 10, 20, 30 ans, que ce soit ceux du GIEC en ce qui concerne le climat, que ce soit les rapports du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'on appelle les GEO, Global Environmental Outlook, que ce soit ceux qui, des rapports par exemple du Stockholm Resilience Institute sur les limites de la planète, eh bien ces gens-là ne cessent de nous alerter en disant que malgré des bonnes volontés orales depuis une trentaine d'années, la réalité continue à être la destruction de la planète dans pratiquement tous les domaines. Et c'est bien ça le problème, c'est que ça n'est pas des pollutions ponctuelles, réversibles et qui sont limitées à un continent ou à un local. C'est sur toute la planète et pratiquement dans toutes les matières dont dépend la sustentation de la vie. Je veux parler de l'énergie, de l'alimentation, de l'air, de l'eau et autres. Et donc le fait que ça arrive dans tous les domaines, à l'échelle planétaire et en même temps, est un défi que, évidemment, l'humanité n'a jamais pu surmonter. Elle a eu des collapses et des effondrements de civilisations, les Mayas, l'Empire romain ou les habitants de l'île de Pâques, si vous voulez, mais que ça soit aussi global, simultané et universel n'est jamais arrivé. Et c'est donc ces rapports scientifiques qui me laissent entendre et qui me font croire que, alors est-ce que c'est dans 5 ans ou dans 15 ans, je n'en sais rien, mais c'est quand même très proche, c'est pas en 2050, ça sera franchement avant 2050, il y aura un effondrement comme une sorte de ligne de domino, c'est-à-dire que peut-être ça commencera par un effondrement financier comme en 2008, qui était peut-être un signe avant-coureur, et puis après, si le système financier entier systémiquement à l'échelon mondial s'effondre, eh bien, ça sera le système politique, le système des télécoms, le système agroalimentaire, le système de l'énergie. Et donc, ça peut s'effondrer, finalement, assez rapidement, disons, entre quelques mois et quelques années, ce qui, à l'échelle individuelle, n'est pas beaucoup, mais qui, à l'échelle globale et collective, sera, évidemment, un cataclysme qui n'a jamais été ressenti et pensé, même par l'humanité.
Oui, parce qu'en fait, nous sommes un petit peu une civilisation, un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on le sait déjà depuis longtemps, les villes ont très peu d'autonomie. Notre indépendance par rapport au pétrole, alors que l'on fait tout avec le pétrole, y compris notre nourriture, nous sommes très dépendants du pétrole. Une crise avec le Moyen-Orient n'est pas quelque chose de farfelu, par exemple, où des tensions peuvent s'exacerber très rapidement en cas de crise et nous plonger quand même dans une situation assez incroyable. Est-ce qu'il y a des prospectives qui sont faites de la rapidité, de ces effets dominos, justement? J'aimerais que les gens comprennent que les choses peuvent aller vite, parce que beaucoup disent que notre système est suffisamment complexe pour avoir une résilience assez longue avant que les choses ne s'effondrent vraiment autour de nous et que nos repères habituels ne s'effondrent.
Alors, il y a énormément d'apprentis futurologues, de prospectivistes, voire de prophètes, qui essayent évidemment d'anticiper l'avenir à 5 ans, à 15 ans, 2050, 2100. Notamment, par exemple, les rapports du GIEC en ce qui concerne le dérèglement climatique. Ils essayent de se dire, si on continue comme ça, voilà ce qui va se passer. Si on infléchit d'une autre manière, ça peut se passer mieux, etc. Donc, il y en a énormément. Mais la question est de savoir quel est le bon scénario, quel est celui qui va vraiment advenir. Alors, la plupart du temps, on présente les choses en disant, chacun a des scénarios pour l'avenir. Il y en a qui sont plutôt optimistes. Par exemple, prenons l'exemple de la loi de la transition écologique et énergétique de Ségolène Royal, qui a été votée en 2015 par l'Assemblée nationale, et qui est une loi à horizon 2050. Donc, on disait, en 2050, la France devra avoir divisé par 4 ses émissions de gaz à effet de serre et divisé par 2 sa consommation d'énergie primaire. Donc ça, c'est une loi à long terme, on peut dire. Eh bien, c'est une loi extrêmement optimiste et je pense que ce qui est dans la loi n'arrivera jamais parce qu'ils se sont lourdement trompés sur certains points sur lesquels on pourra revenir, si vous voulez. Il y en a d'autres. Bon, il y a le GIEC qui lui présente plusieurs scénarios selon ce que choisissent les politiques publiques dans les différents gouvernements, les différents continents. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, mais enfin, je ne suis pas le seul, bien entendu, qui sont plutôt des collapsologues, c'est-à-dire qui essayent, de manière, avec une approche plutôt scientifique, et avec des publications qui ne sont pas les nôtres, mais de laboratoire, de voir si cet effondrement, justement, n'est pas inéluctable. Donc, on pourrait dire, l'humanité futurologique se partage un peu en deux. Il y a les alarmistes qui disent, oui, on ne peut plus nier maintenant qu'il y a un dérèglement climatique, ou une perte de biodiversité, ou une pollution chimique. Mais on va pouvoir s'en sortir la plupart du temps, ce qu'on appelle la croissance verte. C'est plus de technologie, plus de croissance, plus de marché, plus de liberté pour les entreprises. Et vous allez voir, on va finir par s'en sortir comme on s'est toujours sorti de tout. Ça, c'est une sorte de raisonnement par induction qui est totalement faux en histoire. Enfin, ils croient à ça. Et il y en a d'autres, alors. C'est la seconde partie de l'humanité qui est évidemment très minoritaire, comme Pablo Servigne ou moi-même. Nous, on est collapsologues, c'est-à-dire qu'on se dit non, les choses sont maintenant tellement avancées, tellement irréversibles et tellement graves, qu'un certain type d'effondrement va arriver. Alors, est-ce qu'en 2100, il y aura encore une humanité civilisée? Car le fait qu'il puisse y avoir une barbarie dans 30 ans, c'est très probable. Mais le problème, c'est la civilisation. Si on perd Mozart et Descartes, on a beaucoup perdu. Et donc, est-ce qu'en 2100, il y aura encore nos petits-enfants qui pourront écouter Mozart et lire Descartes? Ça n'est pas sûr. Donc le problème...
Et apprendre à lire et être soigné en premier lieu.
Bien sûr, apprendre à lire, à écrire, à compter, être soigné et tenir compte les uns des autres, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vivre dans des communautés résilientes, bienveillantes et bienfaisantes, qu'on puisse avoir une vie, disons, qui ne soit pas une vie, je dirais pas de sauvage, mais une vie, disons, de barbare, eh bien ça, c'est très important. Et nous, on pense, enfin avec Pablo, de manière un peu différente que moi, que cet effondrement va avoir lieu, que ça n'est pas la pensée qu'il aura lieu, contrairement à ce que pensait Jean-Pierre Dupuis, qui avait écrit un très beau livre, voilà une quinzaine d'années, qui s'appelait « Pour un catastrophisme éclairé », où il disait, il tenait le raisonnement paradoxal suivant, « Oui, la catastrophe va avoir lieu, c'est certain. Et parce que c'est certain, tout le monde va y penser, donc on va l'éviter. » Une sorte de paradoxe. Moi, je n'y crois pas du tout. Je dis « Oui, la catastrophe va avoir lieu, c'est certain, et on ne pourra pas l'éviter. » Et du coup, il faudra quand même essayer de penser à une sorte de renaissance, de civilisation, après la catastrophe. Alors ça dépendra évidemment des modalités de cet effondrement, de cette catastrophe elle-même, que je ne peux pas connaître dans le détail. Bien entendu, je ne suis pas Nostradamus ou Madame Soleil.
Enfin, dans les civilisations passées, on l'a vu, les effondrements sont les effondrements plus ou moins rapide de toutes les structures étatiques. On pense à la chute de l'Empire romain, même si c'est long. Et derrière, ce sont quand même des périodes très très longues. La Renaissance met beaucoup de temps et se passe souvent dans des conditions quand même assez, assez compliquées pour réajuster la société aux nouvelles données, à la nouvelle réalité, on va dire. Et là, quand même, la nature étant très affectée, ne pouvant plus nous rendre les mêmes services qu'elle pouvait rendre par le passé, il y a quand même des risques qui sont incroyables de misère, on va dire, de notre société, surtout la nôtre, hein, qui n'est pas habituée à vivre par elle-même, qui est délocalisée, qui est délocalisé, qui n'est plus régionalisé, les choses peuvent être très très compliquées, non ?
Oui, il faut abandonner certainement la vision historique un peu linéaire, un peu progressive, un peu accumulative, un peu incrémentale et gradualiste que nous avons les uns et les autres par notre apprentissage à l'école. Et on se dit, ben, on va vers le mieux quand même. C'est mieux la France de 2018 que la France de Louis XIV. Au point de vue de la santé, de la connaissance, de la pauvreté, etc. C'est une vision à très court terme et aussi géographiquement limitée. Il n'est pas vrai, il n'y a pas une loi de l'histoire, contrairement à ce que croyait aussi Karl Marx, qui fait qu'on irait toujours, ou bien d'autres philosophes, on irait toujours vers le mieux et vers un point oméga qui serait en gros le paradis sur Terre, hein, comme disait Teilhard de Chardin. Donc l'histoire n'est pas forcément linéaire, il peut y avoir des effondrements pendant 20 ans, pendant 2 siècles, pendant 2000 ans. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer et sous quelle forme, mais ce dont je suis sûr, c'est donc de cette advenue d'un certain type d'effondrement. Et donc elle n'est pas linéaire, l'histoire, elle peut se faire par sursaut, par catastrophe, par rupture, par non-linéarité. Et ça, il faudrait évidemment qu'on y pense et qu'on forme, disons, des systèmes de pensée qui puissent, un peu comme essaye de le faire depuis une trentaine d'années Edgar Morin, de la pensée complexe où les choses, eh bien, peuvent évoluer de manière inattendue.
On va faire une petite pause musicale, et c'est vous qui allez choisir cette pause musicale. Est-ce que vous avez envie d'entendre quelque chose, Yves Cochet ?
Peut-être une chanson de Léo Ferré qui serait « La mémoire et la mer », qui est son plus beau poème.
En avant.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime. Te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh,
parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent, une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles.
Cette rumeur qui vient de là. Alors, retour avec vous, Yves Cochet, puisque vous en occupez énormément de cette question. Je suppose que vous avez réfléchi quand même aux moyens de l'empêcher, ou au moins de réduire son ampleur, et de voir avec vous quelles sont les choses qu'il faut absolument sauver en priorité.
Eh bien, ce qu'il faut sauver, évidemment, ce sont les valeurs humaines, humanistes de la civilisation. Non seulement les auteurs, les artistes et tout ce qui peut faire le sel de la vie, hein, c'est-à-dire la culture, l'art, le plaisir, l'amitié, l'amour, le sport et tout ce que vous voulez.
Les relations apaisées entre individus.
Alors, c'est ça qu'il faut sauver. Mais pour sauver ça, il faut évidemment qu'on ait les bases de sustentation de la vie biologique, car nous ne sommes pas des purs esprits ou des pures émotions, nous sommes également un corps thermodynamique, hein, qui fait parfois souffrir et qui finit d'ailleurs, c'est la seule chose dont on soit à peu près sûr individuellement, c'est qu'on va mourir un jour les uns et les autres. Eh bien, il faut essayer donc de faire les deux en même temps, sauver la culture au sens profond du terme et aussi donner des moyens à une humanité une humanité civilisée de survivre. Alors, bien que j'imagine de manière un peu dramatique qu'il y a sans doute une possibilité de beaucoup de morts et de souffrances dans les années qui viennent dues à cet effondrement, disons, politico-écologique, j'espère qu'il y aura encore suffisamment de ressources vitalistes et aussi de culture et de mémoire de la science et pour qu'on puisse avoir les moyens de survivre au point de vue biologique, au point de vue machine thermodynamique en tant que corps, mais aussi en tant que communauté politique, communauté des humains sur un territoire délimité. Et donc, disons, mon idée principale, j'espère que c'est celle-là qui adviendra, c'est donc premièrement le summum de la priorité politique. Ça n'est pas éviter l'effondrement, il est trop tard, mais c'est grave à dire, minimiser le nombre de morts, vous voyez le genre de phrase, quelle implication, hein, morale, et en même temps proposer un modèle, disons, politico-écologique qui est le modèle de ce qu'on appelle les biorégionalismes résilients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle locale, est-ce que c'est quelques centaines d'individus, quelques centaines de milliers d'individus, peu importe, mais c'est à l'échelle locale, il faut essayer de tendre vers un peu plus d'autonomie, notamment alimentaires et énergétiques, qui sont les deux bases quand même de notre survie biologique, les aliments et l'énergie, sinon on meurt tout de suite. Et d'autre part, de faire dans cette communauté locale, évidemment, une sorte d'apprentissage de ce que j'appellerais la sophrologie politique, c'est-à-dire le care, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le fait de se respecter les uns les autres et de ne pas tomber dans une barbarie. L'homme est un loup pour l'homme, je vais te tuer avant que tu me tues, enfin, etc. Donc c'est les deux à la fois. Il y a beaucoup de culture, beaucoup, disons, de respect et d'empathie avec les autres. Et en même temps, évidemment, il faut quand même bouffer et avoir de l'énergie. Et alors, les autres aménités technologiques dont nous bénéficions, prenons la voiture ou les télécommunications, Internet compris, auront disparu en 2050. Donc, s'habituer à vivre sans la voiture, même électrique, je dirais dit même surtout électrique, d'ailleurs en 2050, il n'y aura plus d'électricité, ou bien de manière très intermittente et de manière très locale, il n'y aura pas les grands réseaux transeuropéens. Donc, faire ces deux perspectives à la fois, très pragmatiques, on peut dire agro-énergétiques. Donc là, c'est vraiment de la technicité. En gros, c'est la permaculture, hein, donc une agriculture très intensive, mais très biologique.
Peu mécanisée, évidemment.
Peu mécanisée. De toute façon, il n'y aura plus de tracteur, il n'y aura plus de tracteur. Et en même temps, comme dirait notre président actuel, conserver vraiment cette empathie culturelle, cette sophrologie politique qui nous permet de ne pas devenir des sauvages et des barbares et de se taper les uns sur les autres. Donc je ne crois pas du tout à un avenir à la Mad Max ou à la Soleil Vert. On fait parfois référence à ces films qui ont marqué l'histoire de la science-fiction. Je n'y crois pas. Je crois qu'il y aura évidemment des effondrements en chaîne et locaux qui feront de nombreuses victimes, plus qu'on n'en a jamais vu, même au XXe siècle, et Dieu sait si on a vu des horreurs au XXe siècle pendant les deux guerres mondiales, mais on peut arriver à refaire peut-être ce qu'on fait justement après l'effondrement de l'Empire romain. Il y a eu quelques communautés, notamment religieuses, ou bien les villes-états du côté des Pays-Bas ou du côté de Venise, qui ont réussi à maintenir un bon niveau, disons, de subsistance et de civilisation.
Alors il y a des mouvements citoyens quand même qui sont, même s'ils ne parlent pas forcément d'effondrement, qui travaillent à cette résilience locale. On peut penser au mouvement des transition towns, des villes en transition et territoires, villes et territoires en transition. On peut penser aux oasis de Pierre Rabhi et de Humanité et Biodiversité. Cette tentative que les gens individuellement ou en petits groupes s'unissent pour essayer de créer de la résilience future. Vous en pensez quoi de ces mouvements? Ils auraient besoin d'être aidés par les pouvoirs publics parce qu'ils sont de bons laboratoires? Ou justement, est-ce que le fait qu'ils se construisent seuls est gage de leur pérennité?
Vous avez bien pointé justement le paradoxe, voire la contradiction. C'est-à-dire que moi, je suis très favorable, bien sûr, à toutes ces initiatives locales, que ce soit les villes et territoires en transition de Rob Hopkins, que ce soit en effet les oasis, hein, et ce que fait Pierre Rabhi et d'autres associations, que ce soit ce que font encore les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que, d'une certaine manière, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une sorte de micro-société exemplaire et qu'il faut aider à survivre dans sa diversité et dans son imaginaire. Bon, alors est-ce que si les pouvoirs publics s'en mêlent, ça va plutôt être plus conformiste, moins extravagant, moins révolutionnaire? Je ne sais pas. Je sais que si j'en avais les moyens, mais je ne les ai pas, c'est ce que je ferais, et ça serait les aider, bien sûr. Mais évidemment, si c'est repris en main par les politiques au sens national ou européen ou international du terme, il faut faire très attention parce que c'est vite fait que les grands lobbies, disons libéraux, capitalistes et productivistes, vous donnent un petit peu d'argent et finalement rabotent complètement votre originalité, votre imaginaire et finalement la société nouvelle. Donc c'est bien une question de projet politique contre un autre projet politique. Il y a un projet politique, disons, de résilience locale du type ZAD, du type Oasis, du type ville en transition, et il y a un autre projet politique qui s'appelle le libéral productivisme, qui soit capitaliste ou qui soit chinois ou qui soit poutinien. Hein, c'est la même chose, c'est pas propre au capitalisme en tant que tel, c'est propre au productivisme, c'est-à-dire toujours plus de production et de consommation. Donc c'est ça qu'il faut abattre, et c'est vraiment des révolutions politiques. Malheureusement, justement, comme ces révolutions politiques, d'une part, comme on est non-violent, on ne peut pas le faire en prenant le palais d'hiver comme avait fait Lénine, et d'autre part, ça prend beaucoup de temps pour changer. Or, on n'a plus le temps. Maintenant, on est dans le compte à rebours avant l'effondrement. C'est pourquoi l'effondrement va arriver avant que, disons, l'évolution ou... moi, j'aime bien Pierre Rabhi, mais quand il dit qu'il faut faire la révolution dans les consciences, ça prend beaucoup de temps pour changer les consciences. Beaucoup, beaucoup de temps. Et on n'aura pas le temps. Donc, ça sera au moment où on sera devant le gouffre, et non pas au bord du précipice, mais on tombera, qu'il y aura sans doute un sursaut qu'on peut appeler vitaliste, notamment par la jeunesse, et qui fera qu'ils inventeront, comme les zadistes l'ont fait à Notre-Dame-des-Landes, mais ça peut être comme disait Che Guevara, il faut créer 1, 2, 3 et 1000 Notre-Dame-des-Landes, lui il parlait du Vietnam à ce moment-là, hein, et de telle manière que ces expériences, qui ne sont pas les mêmes du tout, ça dépendra du lieu et des gens réels qui habitent là, eh bien, se multiplient de par le monde. Et c'est ça l'avenir de l'humanité, en effet, c'est exactement ça.
Derrière, vous croyez qu'il peut y avoir une renaissance heureuse, quelque chose de un nouveau contrat social qui se met en place, positif, ou c'est juste supporter et se relever difficilement?
Là, c'est trop difficile, votre question. Personne ne peut vraiment y répondre. Moi, quelquefois, quand j'écris des petits articles par-ci, par-là, je dis « Oui, dans les années 2050, après l'effondrement, il y aura une renaissance, et puis on arrivera à se relever et à inventer à la fois des formes politiques et des formes de vie avec la nature, plus en symbiose, plus écologique, plus naturelle, etc. » Donc, pourquoi pas, et c'est possible. Mais je me dis que ce qui est tout aussi possible, c'est que non, pendant combien de temps? Des décennies, des siècles? Eh bien, il y a ce qu'on peut appeler des époques obscures, hein, et de nouveau, une sorte de médiévalisme de la pensée, et des horreurs, hein. Je ne sais pas, là, Déjà, essayer de penser de ce qui peut s'arriver entre aujourd'hui, 2018 et 2050, c'est déjà assez difficile. Et encore, donc, il y a évidemment des marges de manœuvre, mais je pense qu'il y aura un effondrement systémique, hein, systémique dans tous les domaines. Et après 2050, après l'effondrement, eh ben, tout ce que je peux dire, c'est j'espère, j'y crois, mais évidemment, c'est ineffable.
En tout cas, on peut dire à tous ceux qui préparent ces groupes de résilience locaux d'essayer de ne jamais oublier dans leurs données de préparer le bonheur et de lui laisser une place au milieu de tout ça.
Oui, bien entendu. Alors, on peut faire comme certains d'introduire le bonheur national brut. Je ne sais pas s'il faut faire trop de calculs économiques, en tout cas pas du tout comme est l'économie actuelle. Il faut vraiment tout réinventer, notamment l'économie, la finance. Et
alors, on la réinvente comment, l'économie?
Eh bien, par des expérimentations locales, comme font encore nos amis zadistes à Notre-Dame-des-Landes, ou bien comme font, par exemple, certains qui lancent des initiatives pour une réhabilitation de l'économie du don. Et donc, on pourrait éventuellement, avec des monnaies locales fondantes, ne pas thésauriser, ne pas avoir d'usure, parce que tout ça est relatif, ça n'est pas évidemment des lois de la nature, tout ça. C'est des inventions humaines, un peu comme l'État. L'État n'existe pas, ça n'est qu'une sorte de croyance collective, un peu comme, vous prenez un billet de 5 euros, pour moi, c'est un bout de papier, d'abord, d'un point de vue matérialiste. Alors, les gens croient que c'est 5 euros, et donc ça marche, mais c'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire, du moment que les gens... Il faut refaire d'autres croyances, changer de mythe, des mythes plutôt, évidemment, bienfaisants, et c'est très difficile, quoi, changer de mythe et de cosmologie, parce que...
Et la collaboration plutôt que la compétition.
Alors, c'est ce que dit notre ami Pablo Servigne, où il dit, oui, il y a les grandes lois de la nature, on dit que c'est la guerre de tous contre tous, hein. La nature, c'est extrêmement cruel. C'est vrai que ça peut être cruel, la nature, mais il y a ce qu'il appelle l'autre loi de la jungle, c'est-à-dire l'entraide. Ben, il y a des alternances entre l'entraide et la compétition, entre la cruauté et les bontés. Espérons, mais je n'ai pas d'autre certitude que ça, que dans les années 40-50, on puisse avoir un peu plus, en effet, de bonté et d'entraide.
Un mot de la fin, Yves Cochet?
Eh bien, surtout, devant ces constats qui sont même un peu affligeants, voire désespérants, ne pas se désespérer et conserver l'espoir de changer les choses en n'étant pas seul, quoi. L'idée principale, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul à pleurer en disant « Bon, ben, puisque c'est la fin du monde, autant jouer tout seul à faire n'importe quelle connerie. » Non, il faut s'allier avec les gens qui sont à côté de vous. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux actuellement, Internet, Facebook, Twitter et autres, Instagram, c'est mondial. Mais ne croyez pas qu'au moment où justement cet effondrement va arriver, je pense que l'Internet aussi sera effondré. Et donc, il faut... Alors, qu'on les aime ou pas, il n'y a pas de raison que je sois plus copain avec mon voisin de palier qu'avec quelqu'un qui est en Allemagne, je suis bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est avec notre voisin de palier, de village, de ville, qu'on pourra faire quelque chose. Donc, si on doit avoir une communauté locale, c'est avec les gens tels qu'ils sont, même les chasseurs, même des gens qui sont a priori antipathiques, c'est avec ces gens-là. Donc c'est un effort sur soi pour faire une communauté humaine, humaniste, dans le local. Encore une fois, le local étant des centaines de personnes ou des centaines de milliers, essayer de s'auto-organiser pour la résilience de manière agroalimentaire, la permaculture et de manière à exploiter les énergies renouvelables de manière douce. Et puis voilà, espérons qu'il y a encore une humanité au 22e siècle.
On cite Momentum quand même, hein, on rappelle l'adresse de l'Institut Momentum.
Institut Momentum en un seul mot, .org. Et vous pouvez suivre les résumés très longs de nos séminaires. On doit avoir 65 séminaires depuis 8 ans. Et c'est du très dense. Hein. Enfin, je recommande parce que je suis président de cet institut. Mais ce n'est pas de la langue de bois. C'est assez cru, mais j'espère valide.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.